The French Connection.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 272 de la French Connection. Cette semaine, je suis avec Jacques, ou vieux chialeux, entre parenthèses.
Ben oui, plein de vinaigre. Non, pas vinaigré cette semaine d'ailleurs. J'ai des choses positives à dire.
Yes, cette semaine, épisode positif. Et pour parler de tout cela, ben, on a un invité spécial, Danny Boivin. Salut.
Salut.
Merci d'être avec nous. Avant qu'on commence, on va aller à nos shameless plugs, mais évidemment, on a un invité spécial, puis ça fait longtemps qu'on a fait ça. On a la Friends Connection avec nos 10 questions ridicules. Très, très bonnes, excuse. Qu'on va faire sous peu. Mais shameless plug, évidemment, venez nous voir sur Discord. On a un channel, la French Connection, et toute la communauté que vous pouvez parler avec sur discord.fs.ca. Et dans les événements qui s'en viennent, où ce que pas mal toute la gang devrait participer, autant Jacques, Steve, moi, sûrement Francis aussi, là, je connais pas l'horaire de tout le monde, mais on devrait être au Go Sec les 10 et 11 septembre. Après ça, il y a le groupe Le Point avec les données, protection des données personnelles. Excusez, la date. Le 2 octobre, right? Oui, c'est bien ça, à Saint-Hyacinthe. ACFES, 16, 17 et 18 octobre. Ensuite, on a Montréal Connect, qui est 28 et 31. Et le ACFES s'implique dans Cyberchess en Latvia. Le 29 et 30 octobre, on va offrir le CTF à cet événement-là et aller quelques personnes sur place donner des présentations. Fait qu'on commence à être international. Super, super cool. Toi, mon Jacques, tu participes pas mal à tout ça ou?
Ben, je vais essayer. Go Sec, là, c'est plusieurs personnes qui m'en parlent. J'ai jamais été. Fait quoi, ouais, j'aimerais ça aller voir ça. Les autres que tu m'as parlé, ben, le colloque de cybersécurité à Saint-Hyacinthe, je n'avais pas entendu parler. Le Hackfest, j'ai vraiment hâte. Il y en a bien qui savent, là, j'ai manqué l'année dernière, j'étais parti.
Mais la fun, là, cette année, ils te font un t-shirt. Là,
j'ai fait des arrangements cette année là, que je pars après le Hackfest. Je me suis vraiment ennuyé de toute la gamme. Le Hackfest, c'est vraiment mon événement préféré de l'année. Je vais être là, je vais être plein de vinaigre, là, viendrai me voir.
Faut que tu te prennes avec une bouteille de vinaigre, ça va être parfait.
Ben, t'in, c'est ça.
On va s'organiser. Yes. Commençons avec la French Connection. La Friends Connection. Désolé. Danny. Première question très simple. Puis je pense que plusieurs, évidemment, te connaissent sur le Discord. Mais quel est ton nickname sur le serveur?
Oui, moi, je suis un Archimède. Et ça n'a aucun rapport avec des médicaments sur le dark web ou des trucs comme ça. Là. Je tiens à le mentionner.
Ben, là, souvent, on fait le.
On fait le lien, là, mais ça n'a aucun lien par rapport à ça.
Ça a-tu un lien quelconque?
Oui, mais ben, dans le fond, ça vient d'un jeu de rôle. Je faisais des grandeurs nature, j'en fais encore, des activités médiévales dans le bois, là, comme Donjons et Dragons. C'était un de mes personnages. C'est aussi simple que ça.
Très cool, très cool. All right, donc on a 10 questions de sécurité, un peu rapides, mais prends ton temps. Mais qu'est-ce qui t'a fait choisir un emploi en relié à la sécurité? Parce que tu es rendu en cybersécurité, évidemment, depuis quelques années. Parle-nous de ça un peu.
Oui, ben moi, dans le fond, juste pour revenir même encore plus loin que ça, j'ai commencé dans le domaine des TI assez tard. Quand j'avais, là, je suis rendu à 44 ans. Quand j'ai commencé via à peu près 10 à 12 ans. Parce que... j'avais à peu près dans la trentaine d'années. J'ai commencé assez tard. J'ai eu un gros background. J'ai travaillé dans des shops, dans des entreprises, sur le plancher, carrément me faire suer au petit salaire, et ainsi de suite. Dans ce temps-là, on avait des salaires de... Moi, j'étais bien payé là, dans ce temps-là. Là, puis j'avais peut-être 12-13$ de l'heure. Sauf que c'est jamais stable. C'est des jobs assez physiques, tout ça. Me voyais pas dans ça longtemps. Le problème, c'est que moi, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui était le domaine des TI. Mais le problème, c'est pour faire un DET, ça prenait des maths fortes, des trucs comme ça. Puis moi, j'avais pas ça. Fait que là, c'était comme bon, c'était ce que je fais. J'ai fait un cours en dessin industriel, mais j'avais pas la vision 3D et spatiale. Fait que ça marchait pas. Après ça, j'ai fait un cours, je voulais devenir, moi, historien, spécialisé dans l'histoire ancienne. C'était ce qui me passionne le plus dans la vie, encore plus que la sécurité. Et malheureusement, mon français, il n'est pas up. Donc, je faisais plein de fautes, puis ainsi de suite. Puis, quand tu fais des fautes, ben, disons que je perds tous tes points là-dessus, parce que ça n'a pas bien été. Oui.
Est-ce qu'il y avait une période de l'histoire qui t'intéressait plus, qui te fascinait? Ou...
Oui, ben, c'était vraiment l'histoire en site, genre dans le coin de Babylone, les Assyriens, toute cette période-là. Là, oui, c'est ça. C'est vraiment la période qui m'intéressait le plus. Donc, ça ne marchait pas. Là, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et je ne sais pas comment c'est tombé là-dessus, mais j'ai vu qu'il y avait un AEC, dans le fond, à Lionel Drouot. Là, il ne demandait pas de maths fortes. Puis, j'étais allé faire la formation, dans le fond, un cours d'administration et sécurité des réseaux. Puis, suite à ça, ben, j'ai fait mon petit chemin de... J'ai fait un stage à la ville de Sainte-Thérèse parce que je connais un peu le monde municipal. Je pourrais en parler beaucoup. J'ai travaillé après ça à peu près un an ou un an et demi pour eux. Après ça, j'ai été 6 semaines pour une compagnie de développement ORAT. J'ai été chanceux, là. J'ai pas tombé technicien ou autre. J'ai tombé 6 semaines tout de suite. J'ai travaillé pendant 7 ans avec pour eux. Puis la sécurité, entre-temps, quand j'étais 6 semaines, m'intéressait. C'est là que j'ai découvert le HPS. Je ne sais pas comment c'est venu, comment j'ai découvert ça. Honnêtement, là, je m'en rappelle plus trop. Mais j'étais dans mes premiers événements. Là, j'ai fait les formations de sécurité au HPS 101, 102, 103. Tout ça là, que vous offrez, dans le fond, après à chaque année.
Ouais.
Puis je te dirais que va attendre pour les autres trucs. Là, tu vas sûrement avoir d'autres questions. Là. Mais la sécurité, ça m'intéressait depuis tout le temps. C'est juste que j'avais la barrière d'aller dans le domaine des TI à cause des maths fortes. C'est vraiment ça que là, j'ai découvert après ça.
Oui, puis trouver son premier emploi en sécurité, on s'entend, pas facile.
Étonnant parce que moi, je suis pas en maths aussi. Là, zéro bonne barre, puis regarde, on finit là-dedans pareil.
Moi, je suis excellent en maths. Quand le cours est fini et je l'ai échoué, là je convainc. C'est pas mal ça, le sommaire de mon université. La session d'après, je les ai pas échoués, mais j'ai pas eu très bon. La session d'après, j'étais comme, hey, là, ouais, là, j'ai catché. Non, c'est pas nécessaire en sécurité. C'est plus une approche de comment penser, là, mais...
Ouais, ben c'est ça, parce que, ouais. Sais, j'ai appris à calculer du binaire manuellement. Puis ça a rien servi, veux dire... Puis, hey, puis j'ai passé des soirées à comprendre ça, pour faire ça manuellement, pour, en fin de compte, ça me sert.
Ouais, pour faire un examen puis l'oublier le lendemain, là, on s'entend. Ben, c'est comme au cégep, j'avais des cours de base de données. Il fallait faire des triples, quadruples, joints, gauche, droite, sur papier. Il n'y a personne qui fait ça, là. Sur papier. C'est ça. All right, continuons avec les questions. Est-ce que tu es plus red team ou blue pill? Red team, blue team.
L'un ou l'autre. Je suis très, très généraliste. Moi, je me considère vraiment comme un couteau suisse un peu de la sécurité.
Mais y a-t-il un côté qui t'intéresse plus que l'autre, par exemple?
Oh, je m'intéresse plus que l'autre? Je te dirais que... C'est sûr que j'ai tout le temps été plus dans l'aspect défense. Quand j'étais 6 semaines, indirectement, j'étais porté en enfer. J'ai jamais été dans la partie red team. Jamais. De proche ni de loin. Le plus proche que j'ai pu avoir été, c'est faire des scans. c'est vraiment le plus proche. Mais je te dirais pas mal plus au niveau blue team, que je suis plus proche. Puis dernièrement, m'intéresse peut-être un peu plus aussi à la partie gouvernance aussi. Ça, c'est une affaire que je pensais pas que j'allais m'intéresser un jour. Mais je commence à comprendre que la sécurité, c'est beaucoup politique. Voilà.
Perfect. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir en termes de sécurité informatique?
Rien. Rien, parce que si je m'empêcherais de dormir quand j'ai des problèmes, ça marche tout roche, je dormirais juste pas. c'est vraiment simple. Là. On voit le nombre d'entreprises qui n'ont même pas de système d'inventaire à jour. Et autres dans un fichier Excel. Disons que si ça m'empêcherait de dormir, je ne sais pas si c'est prêt. J'essaie le moins possible de pas m'en faire avec ça. C'est la question, c'est que on le sait tout. Hein, c'est pas est-ce que je vais me faire défoncer. Non, c'est quand tu vas te faire défoncer. Là. Donc, tu sais, ça peut arriver n'importe qui. Ça m'est déjà arrivé dans une autre compagnie. Puis c'est pas le fun à vivre, mais dans, ça arrive. Là, parce qu'il faut pas que tu t'empêches à vivre. Un peu comme quand tu es sysadmin, t'en vas en vacances, t'en vas dans le temps des fêtes, tu sais, on fait la blague, on fait la prière au serveur, faut pas que ça plante pendant tes vacances. Ça aussi, je l'ai vécu, tu sais, faut pas que tu t'empêches de dormir pour ça.
Inventaire? C'est quoi ça?
Aucune idée, c'est quoi?
Mais j'en ai vu, mais t'as raison. Dans une spreadsheet, puis une spreadsheet, c'est super dynamique, puis à jour, là, évidemment.
Oh, ouais, je suis un vieux fichier Lotus qui date de 1900.
Lotus Mail, je m'ennuie de ça. Ça, c'était le fun au gouvernement du bon
c'est,
Lotus.
C'est
Mail.
Ouais.
Je parlais avec quelqu'un tantôt qui a trouvé un bug dans une compagnie financière. Je dis avant la grosse brèche de Desjardins, j'avais trouvé un bug, un leak de certains trucs sur leur système. Puis c'était une affaire de Lotus Notes qui est exposée. Hey, ça, c'est magique, ça. Excusez, vieux souvenir. Qu'est-ce que tu penses qui est le plus grand risque en termes de cybersécurité ou sécurité de l'information aujourd'hui?
Le plus grand risque, il y en a vraiment plusieurs, là, c'est sûr. Là. Je ne peux pas arrêter juste à un risque. Moi, tu sais, j'ai remarqué dernièrement, puis peut-être que les problèmes viennent de là. T'sais, les problèmes peuvent venir de plusieurs endroits. Il faut faire attention à ce que tu dis, comment je vais l'emmener, mais je pense qu'au niveau de la haute direction, si eux ne comprennent pas c'est quoi la sécurité, c'est beau d'avoir les meilleurs en bas, là, ils vont donner des coups d'épée dans l'eau, puis ça ne l'avancera pas. Je pense qu'il y a un gros problème là. Je pense que ceux qui ont des décisions à prendre, c'est pas tout le temps ceux qui ont le bagage, on va dire ça comme ça, le bagage. Tu sais, demande pas, mettons, à que le responsable y aille, mettons, DTI ou celui qui s'occupe de la sécurité par la banque parce que personne veut prendre ce rôle-là. Là. Ça arrive dans des compagnies. Je m'attends pas qu'il y ait un doctorat puis en TI, puis ainsi de suite, puis il a travaillé 20 ans, mais au moins qu'ils comprennent la game, puis ainsi de suite. Tu sais, combien de fois j'ai vu, mettons, de ceux qui prennent des décisions au niveau de TI, c'est le comptable. Ah, il est bon pour gérer les chiffres, mais tant que c'est le temps de gérer vraiment, tu sais, comme telle, mettons, telle solution de EDR qu'on va prendre, telle SIEM qu'on va prendre, il n'y en a aucune idée, lui, là. Il va juste se faire, dans le fond, à recevoir les différents vendeurs, puis il va prendre celui qui vend le mieux sa salade. Ça, je pense que c'est un gros risque là, que j'ai identifié.
Ouais, dans les entreprises, c'est vraiment un gros risque, tu as raison. Parce qu'en plus, ouais. Si tu n'as pas d'équipe en dessous, puis c'est la personne en haut qui décide, il ne peut même pas se faire influencer comme il faut avec des experts. Et c'est comme tu dis, hein, c'est le vendeur.
Exact. Puis ça, je ne parle plus dans ce sens-là, parce que moi, j'ai plus d'expérience avec des petites places. Là. J'ai jamais travaillé vraiment dans une compagnie. Mettons qu'on était, je sais pas moi, 1000, 2000 et plus. Donc, je peux pas parler à ce niveau-là, mais au niveau des PME, souvent dans la haute direction, ils comprennent pas la game. Puis même convaincu que dans des autres compagnies, il y en a beaucoup qui comprennent pas la game non plus.
C'est partout comme ça. Mais c'est très orienté. Ben, plus que c'est gros, plus c'est orienté sur faire de l'argent plus rapidement. Fait que c'est pas... Des fois, ils comprennent, mais l'intérêt n'est pas là.
Non, tu as raison. Puis, au minimum, sans être technique, l'entrepreneur, s'il peut au moins comprendre le risque à son entreprise d'une cyberattaque, il ne peut rien comprendre de ça, mais qu'il écoute les gens qui engagent pour lui donner les conseils, là, les employés comme toi, là, qui dit « Hey, on est-tu vulnérable ici? Il y a des risques ici, il faut les régler. » Il n'est pas obligé de comprendre les enjeux techniques. Il faut qu'il comprenne les enjeux d'affaires, le risque à son entreprise.
Tu as dit un truc, genre, que j'ai beaucoup aimé, qui écoute ses employés. Ça, là, juste pour vous conter une petite histoire par rapport à ça, j'ai déjà travaillé pour une compagnie que ça faisait à peu près 4 ou 5 ans que je leur mentionnais tous les problèmes qu'il y avait dans la compagnie, puis ainsi de suite. On ne m'écoutait pas, il n'y avait rien à faire. C'est quoi qu'ils ont fait? Ils ont engagé une firme de consultants. Ils ont payé 15 000 pour faire l'audit. Puis dans le fond, la firme de consultants, ils m'ont demandé à moi si tu ne marchais pas dans la compagnie. Ils ont fait leur rapport, puis voilà, 15 000 $.
T'as pu avoir une augmentation, Danny?
Il y a longtemps, longtemps, là, on parle de mes débuts là, dans le monde mauvais. J'avais fait un mandat à une grosse banque canadienne, et il y avait un de mes collègues qui était là aussi, puis ça faisait longtemps, lui qui était consultant dans la banque, il était là comme consultant. Puis une des choses qu'il a remarqué, là, c'est quand il y a vraiment un problème sérieux, puis tes gens à l'interne sont prêts à le régler, là, c'est parce que tes gens à l'interne sont pas bons. Fait que là, t'engages les consultants, puis si eux autres sont pas plus capables de le régler, c'est parce que c'est un maudit problème. T'sais? Fait que j'avais toujours trouvé ça drôle, cette perspective-là, là, de, écoute, si la compagnie fait pas, t'as pas confiance aux gens qu'ils engagent pour faire leur job, puis les recommander, les mesures à appliquer, ben là, c'est un problème de recrutement, mon chum. Là.
Tout à fait. Pizza aux ananas, oui ou non?
Chris, t'as pas sûr que j'avais bien compris la question, là, parce que pour moi, c'est un blasphème de parler de pizza aux ananas. Là. C'est fucking dégueulasse.
T'es mon ami.
Oh oui, non.
J'ai pas été assez vite, mais au moins, on peut le faire. There you go. Est-ce que tu as une source d'information que tu aimerais partager à tous que tu suis soit tous les jours et autres là, par rapport à la sécurité?
Source d'information? Non, moi je suis pas. Je suis pas le genre de gars qui va aller fouiller parce que tu reçois beaucoup de nouvelles au niveau sécurité, je te dirais. Là, j'ai pas le temps. Présentement, là, j'ai vraiment pas le temps. Ma source d'information numéro un, ça va l'être foutu, mais c'est vraiment le Discord de AdFest. Il y a des gens qui...
Il y en a beaucoup
là-dessus. Non, mais vous savez, je veux pas avoir l'air les spots pas, ouais. Ou autre, mais c'est que... Il y a tellement de monde là-dessus qu'il y a quelqu'un qui va avoir trouvé le post ou qui va avoir trouvé la nouvelle. J'ai juste à aller voir dans les canals, dans le fond, que j'ai besoin d'aller chercher l'info. Mais sinon, au niveau de ma job, là, j'utilise une plateforme à les payantes, là. Mais je trouve que pour avoir les nouvelles là, au niveau sécurité, c'est toi les attaques là, présentement, tout ça, c'est plutôt bien. On peut nommer des noms de compagnies, ouais, pas de trouble. C'est une compagnie montréalaise, ils sont venus au AdFest justement l'année passée. Oh, cool. C'est Flair.
Ah, ben, vous connaissez? Oui.
Ouais. Dans le fond, c'est eux, ben c'est leur plateforme est vraiment bien. Là. Fait qu'il y a des bonnes infos là-dessus.
Oui, Flair, c'est les anciens qui participaient au CTF du Hackfest et qui donnaient des talks. Ouais. Très cool. est-ce qu'il y a une pratique que tu aimerais que la population, les gens en général, appliquent et pourquoi?
Hey boy! Peut-être d'être plus juste d'être plus alerte. Souvent, on a tendance à penser que ça, c'est autant les gens que les compagnies, des trucs comme ça, que c'est pas nous qui va se faire attaquer. Ouais. On n'est pas
visé. Tout le monde est beau, tout le monde est parfait, right?
Yeah. Exact. Tu sais, moi, j'ai rien attaché. C'est pas grave si mon mot de passe n'est pas bon, j'ai pas de problème, et ainsi de suite. Peut-être qu'il faudrait que le monde soit un peu plus alerte là, à ce niveau-là. Là, vous voyez les yeux de Jacques. Là, je sais que c'est pas évident. Je sais même pas si c'est faisable, honnêtement.
No comment.
On essaie d'être positif.
Hein? C'est un changement de génération. C'est un peu un des sujets qu'on a depuis deux mois. Là. Changer ça d'un... La sensibilisation d'entreprise, ça donne pas grand-chose. Les meilleures métriques sont sorties avec les meilleurs programmes de sécurité juste en entreprise. Je parle pas de la population. C'est environ 30 à 35 % d'amélioration. Un programme de bout en bout dans l'année avec des phishing campaigns, avec des vidéos, avec des présentations, avec la gamification. Tu sais, l'affaire là, que tu as investi 1 million, là, à peine 35%. Puis là, tu parles de la société que tu n'as rien de ça en place. Ils pourraient le faire, là, mais là, tu n'as rien. Fait qu'oublie ça, la sensibilisation. Mmh. Fait que, ouais.
Perdu espoir avec la population. C'est Mousovini.
Mais moi, je veux qu'ils fassent la même chose qu'ils ont fait avec autant l'alcool au volant que la ceinture. Tu sais, qu'il y ait des bannières partout sur les autoroutes, qu'il y ait des campagnes à la télé, qu'il y ait des cours aux primaires, qu'il y ait des cours secondaires. Quand ça, ça sera en place, on pourrait dire on verra si les choses changent. Ouais. Tant qu'il n'y aura pas au minimum ce que je viens de dire, parlez-moi pas de sensibilisation de la population.
Non, regarde. Puis là, il y en a qui m'ont dit, là, attends, tu vas être vieux, toi aussi, là. Tu, un jour, tu vas te faire arnaquer avec parce que tu seras pas capable de suivre la technologie. Puis là, quand je pensais à ça un soir, là, je disais, un peu, là. Des cartes débit, on a ça depuis 1984 au Canada, là. Ça fait 41 ans. Et depuis le début, les banques nous disent, hey, ton NIP, là, c'est ton secret, hein. Tu donnes pas ça à personne.
Puis on te le demandera jamais. On te le demandera jamais. C'est 20 ans qu'ils disent ça, right?
Tu donnes pas ça à personne, tu caches ton NIP. Et là encore, aujourd'hui, 41 ans plus tard, il y a du monde qui appelle, là, hein, au téléphone. Fait qu'on parle pas de cybersécurité, là. Ils appellent au téléphone, puis ils disent, bonjour, Monsieur Mathieu, on a détecté de la fraude sur votre carte de débit. Fait qu'on va envoyer quelqu'un la chercher, mettez-la dans l'enveloppe et écrivez votre NIP dessus. Puis le monde le font. Hey, si, boy. Fait que là, tu sais, à un moment donné, là,
C'est plate, mais c'est le concept. 41
ans qu'on dit, là, tu partages pas ton NIP, ils mettent la carte d'un enveloppe avec le NIP dessus, puis ils donnent ça à un étranger qui se présente à la porte.
Mais tu sais, tous les tests de psychologie qui ont été faits, qui, dès que tu as un concept d'autorité, même au téléphone, l'humain va toujours suivre. Je sais pas si tu as vu le documentaire sur Netflix, puis ça, c'est un peu plus dégueulasse que qu'est-ce qu'on parle là. Il y a 10-15 ans, peut-être un peu plus, j'ai oublié, ou dans les années 90, ça, excusez, j'ai oublié la date. Mais il y a quelqu'un qui appelait dans des McDonald's et autres aux États-Unis, puis qui disait « telle personne vous a volé de l'argent », un des employés, puis leur disait quoi faire. Fait qu'il les faisait déshabiller, il leur faisait faire des actes dégueulasses, puis tout. Et il y a eu des trentaines et des quarantaines de cas comme ça, parce que tout le monde le fait, juste parce que le gars au téléphone dit « je suis une police, vous devez le faire ».
On n'enseigne pas là, ça revient à l'éducation, et on n'enseigne pas la pensée critique, hein, ça fait longtemps qu'on le dit. On se fait avoir avec toutes sortes de niaiseries. On joue ses émotions au sens d'urgence, puis les gens n'arrêtent pas pour 2 minutes là, pour penser et dire attends un peu, là, ça a toute l'allure ce qu'on me demande. Hein?
Non, exact. Est-ce que tu es plus un early bird ou un night owl, Danny?
Si tu te permets, Patrick, j'ai découvert un truc sur GitHub cette semaine ou la semaine passée au niveau de l'hygiène un peu personnelle. De protection, de trucs à checker, à vérifier. C'est très, trouve, assez simple. Je vais te le partager dans le chat. C'est jvital-defense.io. Ça a l'air vraiment bien. Je n'ai pas passé au travers, là. Mais je pense que monsieur, madame, tout le monde ferait un quart de ce que tu as là-dedans. Ça serait vraiment bien là, parce qu'on peut le mettre dans les notes après.
Oui, merci. On va mettre ça dans les notes et aller voir ça. Oui, puis il y a quelques livres aussi sur comment être pas anonyme en ligne, là, mais c'est gérer vos affaires comme il faut. C'est un très bon point. Parfait. Fait que la prochaine question était, est-ce que tu es un early bird ou un night owl? Est-ce que tu te couches de bonne heure ou très tard?
Hey boy, moi je me couche tard. J'ai de la misère à me lever le matin. C'est pour ça que souvent, je me lève vers 9h, 9h30, prends ça relax, puis c'est pour ça que je travaille souvent en soirée aussi. On dirait que mon cerveau, il est plus allumé en soirée aussi. Donc, voilà.
Je te comprends. Puis, quelle pratique de cybersécurité que tu as de la difficulté à suivre par toi-même, pour toi, là? Dis-nous, c'est où qu'on va faire l'attaque, là?
ça n'a pas vraiment de lien avec la sécurité, mais c'est plus dans le domaine des TI. Puis ça, c'était drôle parce que on recule via genre 10 ans que j'avais fait mon cours. Il y avait un de mes cours là-dedans, c'était du câblage structuré. Mes câbles à l'école étaient number one. Mes câbles après ça, au niveau de la compagnie dans mes routeurs, dans mon rad de serveur, c'était super bon. Mais chez nous, c'est un spaghetti, c'est un bordel. J'ai aucune envie de faire ça, même si je devrais. Mais c'est dégueulasse. Là. Vous pourrez vous envoyer des photos. Là. C'est vraiment comme qu'on trouve sur Internet.
À la sortie du podcast sur le Discord, on s'attend à des photos. traditionnelle ou crémeuse?
Crémeuse.
Nice. All right.
Je suis pas un cheval. Moi, je m'envoie de la pizza aux ananas.
Ça me fascine d'être avec nous, David. Ça me fascine constamment. Là. Je pense que ça ne va jamais arrêter. Puis ça doit être, je ne sais pas si c'est typiquement québécois, mais c'est tout ce que tu as à dire, traditionnel ou crémeuse. Tout le monde
je sais, non, c'est évidemment québécois, ça n'existe pas ailleurs.
C'est incroyable. Tout le monde allume tout de suite.
Mm-hmm. Ouais, j'adore cette question. Elle n'a aucun rapport, mais parfaite. All right, quelques petits sujets. Puis merci, Danny, pour tout ça. Puis évidemment, participe, commente sur tout le reste. Mini-sujet d'opinion, on en a trois. Ben, commence sur premier retour, Jacques, sur Altitude 2025 IT Cloud.
Oui, ça a été une couple de semaines assez occupée avec des colloques, des conférences. Le premier que je suis allé, c'est à la fin mai, qui a été le colloque ou la conférence Altitude 2025 de IT Cloud. Pour ceux qui ne sont pas dans le domaine MSP ou des choses comme ça, IT Cloud, c'est une compagnie, ça a commencé québécoise, là, qui a commencé à Trois-Rivières, qui a été acheté récemment par AppDirect, une compagnie, je crois, américaine. Mais ils gardent encore le nom IT Cloud, là, ça continue la même équipe. Et c'est des gens qui... C'est une compagnie qui fournit des services cloud. Donc, exemple, moi et autres dans la communauté là, qui sont MSP ou MSSP, on achète, exemple, Microsoft 365 à travers eux autres. Ce sont des quelques MSP, CSP à travers le Canada. Ils vendent Bitdefender, ils vendent... Acronis, AvePoint, une gamme de produits, puis ça va sûrement aller en croissance, là, ils ont des plans. Et c'était la première fois que j'y allais, c'était à Trois-Rivières cette année, et j'ai été très, très content de ma présence là. C'était vraiment le fun, premièrement, de revoir des gens de la communauté, d'en rencontrer des nouveaux, mais je dois dire que ce qui m'a marqué, ça a été des gens d'IT Cloud. Bon, je connaissais déjà à un certain niveau Carl Lemon, qui est rendu directeur général, Steve Lemieux, mais j'ai rencontré aussi Annie Auger et un des employés, Sylvain Fontaine, qui m'a déjà aidé beaucoup. Bref, une couple de personnes. Fait qu'on peut parler des exécutifs. Mais ce qui m'a vraiment étonné, c'est qu'il y avait beaucoup d'employés qui étaient là. Hein, les gens qui font du support, qui sont dans toutes sortes de rôles, parce qu'évidemment, ils ont des gens techniques là, qui offrent le support aux revendeurs. Et la chose qui est ressortie, c'est qu'ils sont tous très contents de travailler chez IT Cloud. Ils adorent ça. Ils disent que l'atmosphère est excellente. Ils adorent leurs collègues. Ils ne se voient pas nulle part d'autre. Fait quand on parle d'une culture saine d'une entreprise, ben, j'ai été vraiment étonné. Là, à tous les employés à qui j'ai parlé, ils me disaient toutes la même chose. Puis je ne leur posais pas les questions. Là. Ils faisaient juste dire « Ah ouais, je suis content ici, ça va bien, c'est le fun, une bonne équipe, une bonne gang. T'sais. Carl, il est cool, Steve aussi. » puis fait que vraiment, là, quand on parle d'une belle culture d'entreprise, évidemment, IT Cloud fait quelque chose de bien parce que tout le monde est content. Puis une des choses, je leur ai dit aussi, tu sais, moi, vieux avec les cheveux gris, fait que quand j'ai besoin de support, exemple avec Microsoft 365 ou j'utilise un petit peu Acronis, j'ai toujours l'instinct d'aller direct à la source. Hein. Je veux parler à Microsoft, je veux parler à Acronis, puis ça ne me tente pas de passer par un intermédiaire, tu sais, comme IT Cloud, là, puis là, leur support. Puis là, j'ai dit à un moment donné, mais ça y est, tu sais, ils sont bons. Sont vraiment bons. Là. Je l'ai dit à Steve Lemieux qui est en charge d'équipe. Là. Je lui dis vraiment, là, vous faites une excellente formation. Tes gens sont sur le piton. Je te dirais que 8-9 fois sur 10, quand je fais affaire avec votre support, on règle mon problème dans le premier appel. Fait que, très étonnant. Là. Fait que une belle compagnie, une belle conférence. Ça a été vraiment le fun. J'ai eu la chance de passer du temps avec Steve. Là. Il était là aussi. Steve Waterhouse, Steve Lavoie était là aussi. Mon chum Patrick Boucher. Non, lui, il n'était pas là, celui-là. Et on a vu, bref, un paquet de monde. Ça a été vraiment le fun. Une belle conférence. Fait que ceux qui sont revendeurs, MSP, qui font affaire avec IT Cloud, sûrement vous y allez aussi. Là. Mais si vous êtes jamais allé, allez voir ça. Là.
Très cool, très cool. Pour faire suite, tu es aussi allé à ITSEC avec quelques autres.
Oui. ITSEC, oui. C'est une autre conférence que j'aime beaucoup. Là, j'avais été invité par Simon David William d'être sur un panel aussi avec Steve Lemieux, justement, d'IT Cloud. Il y avait René Sylvain Bédard, qui avait, ben, en tout cas, ben, oh, ben, la, la, voyons, Sylvie, la femme de Eric Parent, qui était là aussi. Fait que, mais ITSEC, là, je dis souvent, après Hackfest, honnêtement, c'est mon événement préféré, là. Vraiment, ITSEC, c'est une belle conférence. C'est Devolution qui fait ça. Ils font un excellent travail. C'était la quatrième qu'ils faisaient. Et encore là, les retrouvailles des gens de la communauté, des nouvelles rencontres, Frédéric Bernard, quelqu'un avec qui j'interagis souvent sur LinkedIn, qui était finalement là, on s'est rencontrés en personne. Et là, mon ami Patrick Boucher, là, qui était là, que j'aime bien passer du temps avec, il était là aussi. Et à la fin, ils ont annoncé là, qu'ils passaient le flambeau d'Evolution à l'association, c'est une association que Simon David et Frédéric Bernard et Audrey Chin qui sont en train de monter, là, l'association des administrateurs de système de TI du Québec, là, quelque chose comme ça. Là. Bref, c'est eux autres qui prennent la relève d'Evolution. C'est eux autres qui vont préparer la prochaine année l'ITSEC. Alors, j'ai hâte de voir, mais j'ose croire qu'ils vont faire un excellent travail. Mais encore là, ça, c'est plus ouvert à la communauté. Là. C'est pas juste pour des revendeurs. Mais encore là, c'est une belle conférence avec beaucoup de bonnes présentations.
Très cool, très cool. Merci pour ça. Dernier petit sujet de ton côté, Danny. On parlait avant que le show commence ou au début. Épisode positif, oui. Mais le point est, puis récemment, on a des initiatives là-dessus qui sortiront éventuellement. Je ne veux pas voler de punch tout de suite. Mais ce que le Hackfest a apporté à plusieurs personnes en termes de communauté et tout, fait que je voulais savoir, toi, de ton côté, c'est quoi ton histoire avec le Hackfest? Qu'est-ce que ça t'a donné? C'est une histoire de succès? Ça a-tu été utile? Des problèmes, etc.? Ouais.
Le problème, il y en a plein. Non, pas vrai. Non, honnêtement, excusez, le premier mot qui me vient en tête en premier, là, c'est vraiment le respect. Vous l'avez peut-être entendu avec ma façon de parler. Moi, j'ai des problèmes d'oreille. Puis ça l'a souvent mis des barrières dans ma vie, si on peut dire, de parler aux gens, de faire des conférences. Même, mettons, venir dans un podcast, venir parler, puis ainsi de suite, de peur de me faire juger à cause de ma prononciation, puis des trucs comme ça. Puis j'ai jamais senti ça dans le aspect du jugement comme ça. C'est vraiment, moi, je vois ça comme une safe place, puis j'apprécie vraiment beaucoup pour ça. C'est une place que la communauté est très ouverte, justement, pour apprendre. Il n'y a pas de ah, moi, je connais tous, c'est tout. Tu sais, il n'y a pas de big shot à perdre.
C'est presque mal vu, je dirais, quand tu agis comme un big shot, je veux dire.
Ouais, mais trouve que sans le nommer aucun autre endroit ou whatever, j'en ai vu ailleurs. Je te dirais que j'en ai vu ailleurs. Donc, c'est ça. Mais oui, d'accord avec toi, que la communauté est petite. Elle est quand même assez petite. Je ne pense pas que c'est vraiment une attitude qui est bien d'avoir. Je te dirais, c'est ça, moi, ça m'a apporté beaucoup. J'ai appris vraiment beaucoup par rapport au Hackfest. Puis je l'avais déjà mentionné, je pense. J'ai donné deux conférences à date au Hackfest. J'ai mes deux coins ici, on ne les verra pas, là. Mais je les garde précieusement. C'est comme un peu une fierté pour moi. La première conférence que j'avais donnée en 2021, dans le temps de la COVID, puis j'en ai donné une l'année passée aussi, en personne cette fois-là, à cause justement, à cause de toi, Pat, tu m'as challengé. Tu m'as dit, ouais, là, t'es bien beau, t'as donné une conférence, mais
c'était. Ça va sur Zoom, là.
Ouais, c'est ça, là. Envoyé en personne, tu vas voir, c'est pas pareil. Honnêtement, là, l'année passée, je l'en parlais avec Vincent, là. Que avant que je monte sur le stage, tout le long, tout à partir de Montréal, juste me rendre à Québec, puis après ça, embarquer sur le stage, je me trouvais vraiment ridicule et idiot de présenter, faire une conférence. Je capotais, je voulais rien savoir. Puis finalement, une fois que j'ai commencé à parler, ça a défilé, là. J'ai fait rire le monde, j'ai eu des bons commentaires après.
Ça a été un des meilleurs talks de l'événement, Danny.
Une fois que Pat a passé avec le Fireball, là, c'est ça, t'étais carré?
Ouais. Je me souviens pas si on l'avait fait ensemble. Mais...
Non, t'es pas vu, Pat. Pensais te voir. Ah, j'étais déçu. J'étais déçu.
Bon, mais je m'attends un autre call for paper. Faut que je règle ça.
Ben, j'ai envoyé mon nom là, pour cette année. Là. On va voir. Là.
Mais c'est pas du Fireball, là. C'est du rhum quand même. Un petit peu de respect.
Mais ça a été bien, puis justement pour ça, c'est de briser les barrières, de me challenger, puis tu sais, ça part bien. J'ai vraiment appris, puis je pense que c'est là à faire aussi, tu m'as beaucoup aidé, parce qu'avant, j'étais 6 admin, comme je parlais, puis je voulais changer, moi, aller plus au niveau sécurité. Avec mon emploi, ça ne marchait pas bien du tout. J'allais au bureau à chaque matin, je vomissais tellement que c'était pas bien en dedans, puis ainsi de suite. Puis, c'est toi, Pat, avec d'autres gens du HPS, justement, qui m'a donné le coup de main que j'avais besoin pour que j'aille mon premier emploi au niveau cyber. Puis, ça, tu avais même dit merci avec une bouteille de rhum, justement. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Là. Mais, parce que c'est ça, dans le fond. Puis, voici, là, ça va, je pense, c'est ma 6e ou 7e année que je suis en cyber. Puis, ça va bien. Là, j'essaie de casser l'autre plateau. Là, de devenir
il est dur, celui-là aussi. Hein?
Ouais. Ouais, de devenir peut-être manager, ou tu sais, avoir un poste PO. C'est pas évident parce qu'on dirait que pour devenir en direction ou c'est comme gérer des employés, il faut que tu l'aies déjà fait avant. À un moment donné,
La première job en info, il te faut 5 ans d'expérience. Puis ta première job de manager ou de directeur, il te faut 5 ans d'expérience. C'est con.
Exact. Oui, c'est ça. Parce que si mon boss, il est tout ça, là, c'est un petit message.
Ouais. Non, c'est, je suis content d'entendre ça, c'est super le fun. Puis est-ce qu'il y a des choses que tu penses qui seraient améliorées, que tu aurais aimé avoir ou que tu voudrais qu'ils soient en place dans le futur?
Au niveau du HackFest?
Ben, l'HackFest, la communauté ou tout ce qui est alentour. Là.
Moi, je te dirais de qu'on parle alentour, de ne pas avoir peur foncé. Je ai parlé un peu de mon background tantôt. Je suis un job de shop. Là. C'est ma dernière job de shop, si je ne me trompe pas, je l'avais des morceaux vite avec un John à eau. Puis là, je m'occupe de la sécurité d'une compagnie qui font des milliards. Fait que, je pense que si moi, je t'appelle, c'est oui, il faut s'attendre à travailler fort. Ma belle-sœur me dit souvent que je suis chanceux dans la vie. Elle l'écoutera pas parce que je peux le dire là, comme fuck off. Là. J'ai travaillé pour. Donc, il faut c'est s'attendre à travailler fort, mais c'est possible. C'est possible. Puis au HFS, je te dirais que je sais que vous avez eu des problèmes de village. Mais je pense que c'est une affaire qui revient souvent là, de le village soit peut-être plus drôle, s'il y a plus d'activité, mais je sais que c'est pas évident. Là.
Ouais, ça c'est constamment le truc. T'sais, on a des villages qui viennent, qui partent. On a
ça.
On en a des nouveaux cette année, on avait des nouveaux l'année passée. Puis c'est tout un guess, hein. Fait que. Juste pour te faire paniquer plus, là. Parce que tu as dit ça te fait paniquer, ça t'a fait paniquer, donner un talk l'année passée. Le trois quarts des années du HackFest. C'est encore le cas, mais un petit peu moins. Mais la majorité des éditions du HackFest, 80 à 90% des inscriptions, c'est les 2 semaines avant l'événement. Fait que dis-toi qu'on a investi, je ne sais pas les chiffres, là, mais c'est des centaines de milliers de dollars. Puis un mois avant l'événement, tu es comme, est-ce que je cancelle ou pas? Là, c'est un peu, ça fait une couple d'années que ça n'est pas arrivé direct, mais ça reste qu'il y a des années que je me suis posé la question pour vrai. Là. Fait que, ouais, le concept de dernière minute puis de guest, on ne sait pas ce qui va arriver. Là. C'est fou. Là. Puis des fois, on met quelque chose, ça marchera pas, c'est le truc qui marche le plus. Puis dit, ah ouais, celle-là, c'est sûr, ça marchera pas, mais on va l'essayer. Puis finalement, c'est celle-là qui marche aussi ou qui marche pas. Là. C'est tout le temps difficile à savoir. Mais ouais, bon point. Mais cette année, ça, on a un village, on devrait avoir un village de AI qui va apparaître.
C'est que le fameux cadenas, ça, c'est populaire à chaque année.
Le lockpicking, oui. Ben là, ça, on n'a pas été chanceux, parce que notre gars qui était supposé de venir a annulé la journée même de son trajet, il y a 2 ans. Excusez. parce qu'il y a eu un problème de job, une brèche ou whatever. On s'est retrouvé avec un shipping. Fait que 2-3 jours avant l'événement, il s'est fait canceller. Fait qu'il nous a shippé ça. Fait qu'on l'a reçu une semaine après. Ça, c'était le fun. Pas de village. Il y avait une belle rangée de tables vides à cause de ça. Tu vois, l'année passée, c'est pas mal la même chose qui est arrivée, mais on a réussi à avoir de l'équipement et des bénévoles dernière minute. Fait que là, ça n'arrivera pas cette année. Mais ouais, c'est le plaisir de l'événementiel.
Mais sinon, la nouvelle place, je trouve que c'est bien comparé à avant. Là. Je trouve qu'avant, on était à l'hôtel, je pense. À l'hôtel
ouais, j'ai posté une belle photo dans le Lobby Icon, là, le channel du Hackfest là, de cette année, tantôt. Vous irez voir la photo. Pour ceux qui nous écoutent, là, si vous n'êtes pas sur Discord, si vous êtes et vous ne l'avez pas vu, allez dans le channel Lobby Icon sous Hackfest et Polar 2025. C'est une photo du CTF 2017 dans les salles de l'hôtel Plaza Sainte-Foy. Puis mon commentaire, c'est pas mal les règles, moi j'ai dit ça, les règles d'espacement ou les règles de capacité de salle. Ouais, on est un événement de hacking, on les a pas respectés.
Ah non, c'était débile, on marchait sur les pieds, là, c'était fou raide. Ouais.
Mais c'était le fun solide, mais ouais, c'était quelque chose. Exact. Versus dans un centre de congrès, ils font les plans, on leur dit qu'est-ce qu'on veut, ils font le plan, et quand ils l'installent, ils calculent au centimètre près la distance des tables, les chaises, tout. Là, c'est un autre monde. Coûte plus cher, mais ça va mieux. Ouais, tout à fait. Yes, ben merci, Danny. Puis, dernière petite nouvelle, c'est une shameless plug de mon côté, mais en même temps, c'est un peu dans ton sens, Danny. Je donne des talks de temps en temps pour le fun au Hackfest. J'essaie de les mettre là, à la fin de la journée, généralement, pour pas trop prendre la place, mais j'ai finalement soumis un talk à un autre événement. Ça fait des années que j'avais pas fait ça. On a été acceptés, Patrick, Steve et moi, à donner le talk... où est-ce qu'on scanne le gouvernement, là, parce que ça fait 2-3-4 fois qu'on fait le pré-pandémie et l'année passée, on a fait des talks sur le scan du gouvernement du Québec. Fait que là, c'est Hack Canada version 4. Comment mesurer la posture de cybersécurité, là, 5 ans d'attaque, Surface of Attack Analysis au Canada. Fait qu'on va scanner la majorité des gouvernements là, fédéral et autres, pas juste le Québec, puis on va aller présenter les différents niveaux de tout ça. Mais l'année passée, on avait commencé. Là. Fait que, on avait, je pense, l'Alberta et certains autres qui avaient des très mauvais scores sur certains points versus le Québec qui était d'autres. Fait qu'on va aller présenter ça à secteur au début octobre. Ça devrait être le fun. En espérant que ça fasse bouger les choses, parce que ça a quand même fait bouger les choses beaucoup au Québec.
Oui, ben c'était ma question. Est-ce que justement ouais. ça fait bouger? C'est quoi la réception du gouvernement que vous avez suite à ça?
Ben, je te dirais, la réception, on en parlera hors du podcast, mais oui, ça fait bouger les choses. Puis tu sais, j'ai annoncé ce talk-là, j'ai reçu des messages déjà aujourd'hui disant on pourrait faire ci, on pourrait faire ça là, du gouvernement, dire on pourrait vous aider dans ce talk-là. Fait que non, ça a vraiment aidé. Ça, c'est sûr. Je te dis pas que ça a été toujours bien reçu. Parce qu'évidemment, tu t'envoies le message à une équipe qui n'ont pas fait leur job. Fait que c'est sûr que c'est pas super, mais c'est l'argent du public. Puis c'est un scan public. Là. C'est pas, on va pas pirater rien. Là. On scanne des données publiques. T'sais, aller sur un site web et checker que la date du copyright date de 1997 puis qu'il n'y a pas eu le CIS-6 encore dessus. Là. Pas grand hacking là-dedans. Là. Fait que c'est vraiment une analyse de surface d'attaque, mais ça donne un indice incroyable sur le niveau de maturité d'une organisation. Et parce que les gouvernements, leur surface d'attaque est tellement grande, ben, la donnée qui résulte du scan est très grand aussi. Là. On a beaucoup de profondeur dans ça. Et ça peut être. La première version qu'on avait faite était presque orientée plus juste les scans TLS. T'sais. Là, on le sait qu'ils sont en train de fixer ça. Ça a pris un petit peu de temps, mais c'est en cours. Mais on a scanné d'autres gouvernements puis beaucoup de sites web l'année passée, puis on en a trouvé plein où, que, juste en scannant, il n'y a pas d'attaque, rien. Puis t'es capable d'aller take over des domaines au complet puis faire ce que tu veux sur leur site. Là. C'est presque triste. Au niveau fédéral, je pense que l'année passée, on l'avait, mais je suis sûr qu'on va en trouver d'autres. Mais tu sais, toutes les injections de SEO, pour dans le dans les résultats de Google, des sites porno s'injectent dans les sites web qui ont une vulnérabilité. C'est pas vraiment une vulnérabilité, c'est plus une mauvaise feature, là. Mais ils sont capables de modifier le résultat de Google qui pointe vers un site de gouvernement. Puis là, ça dit XXX plein de mots spécial, puis tu cliques là-dessus, puis c'est un site du gouvernement. Ou le site du gouvernement redirige vers un site porno, là. Fait que tu sais, il y en a plein de choses comme ça. Puis le problème, c'est pas que les équipes sont pas compétentes, c'est que la surface d'attaque a jamais été gérée en 30 ans. T'sais, tu mets 20 personnes qui savent de quoi ils parlent et qu'est-ce qu'ils font. Ils n'ont pas le temps de gérer des infrastructures de milliers, de centaines de milliers d'ordinateurs qui n'ont pas été updatés depuis 10, 20, 30 ans. Là. C'est fou comme challenge. Fait que c'est un peu ça que le talk fait référence à. Puis, ouais, c'est pas un sujet facile, mettons.
Peut-être une question juste à relancer Jout là-dessus, là. Tu es habitué, Jout, toi, peut-être de voir un peu la posture des autres compagnies. Quand tu vois, mettons, une compagnie, là on va parler d'une compagnie, mais là c'était le gouvernement, mais que c'est géré tout roche au niveau de la surface d'attaque, que c'est public, c'est quoi le message que ça t'envoie à l'intérieur de ça?
Mais avec tu réponds, Jacques, la chose qui est le fun de cela, c'est que Jacques, il a son scan qu'il fait pour détecter si leur maturité est bonne. Puis moi, j'en ai un aussi. Puis généralement, quand on se parle, on fait notre scan chaque bord. Puis généralement, si le sien est négatif, le mien est négatif aussi. Ouais.
Moi, c'est pas autant des scans genre pen test. Par exemple, quand je fais une évaluation de posture de cybersécurité pour une PME, je leur demande des comptes admin là, dans leur Microsoft 365 parce que j'ai repouillé un petit peu partout, tu sais, puis je sors des rapports de ça. Je leur demande s'ils ont des Active Directory à l'interne, ouais, je leur demande un compte domaine admin, puis je vais fouiller là-dedans, puis j'ai des outils qui font des scans puis des rapports sur les postes. Fait que tu sais, c'est pas pareil là, comme Pat fait, un scan externe, il n'y a pas de pied dans l'entreprise. Mais ça, c'est ça, un vulnerability scan. Là, on commence par ça pour évaluer est-ce que tes mesures, est-ce que tes défenses sont bonnes. Et là, j'en ai parlé dans le dernier podcast que Pat vient de publier aujourd'hui, là, qu'on a fait au IHAC live il y a deux, trois semaines. Non, au niveau des PME, c'est zéro open bar dans 95% des temps. C'est vraiment triste. Là. Et juste hier, il y a un de mes clients qui m'a envoyé un courriel qui me dit « Hey, j'ai un de mes clients, un très bon client de longue date, qui m'envoie un fichier PDF. » On prend l'exemple. Il m'envoie un fichier PDF avec le mot de passe pour débarrer le PDF. Il dit là, j'ouvre le PDF, ça me demande le mot de passe, mais j'ose pas l'ouvrir. Là. Juste ouvrir le PDF, juste faire ça, là, ce que j'ai infecté ma machine. Je dis non. Je dis, moi, je te gâche que quand tu mets le mot de passe, le PDF va ouvrir, puis là, il va contenir un lien vers quelque chose d'autre. T'sais? Fait que là, je dis, envoie-moi-le. Là. Fait que là, je suis dans mon petit environnement contrôlé ici, ben confiant de mes affaires. J'ouvre le PDF, je mets le mot de passe et effectivement, le PDF, c'est comme juste une grosse image qui dit « clique ici pour aller voir le PDF ». Ouais, mais tu viens de me l'envoyer le PDF, là. Pourquoi faut que je clique pour aller voir le PDF en partant? Mais je clique sur le PDF et là, je me ramasse, c'est un raccourci genre Bitly, là, puis je me ramasse sur un site, je me souviens pas de quoi, là, qui a pas rapport, mais avec un login Microsoft 365.
Surprise.
Fait que surprise. Non, mais c'est ça, là, les gens comprennent pas. Puis là, je suis certain, si je me serais connecté avec l'authentification multifacteur, parce que c'est vraiment un login de Microsoft, mais à travers un serveur proxy, style Evil Jinx, là, du cyber méchant qui prend 20 minutes à monter et à faire, mais les gens ne portent pas attention. Fait qu'ils se loguent, puis ils se connectent, puis ils donnent leur jeton d'authentification. Fait que là, j'ai expliqué tout ça à mon client, puis il fait « Ah, wow! » Mais là, j'ai dit « Garde, là, ton client, il est dans la merde, là. » Il a dit, son client, il dit « Ouais, je me suis fait hacker mon compte, tu sais. » Là, encore là, tu sais, comme Michael Lavroff et d'autres, je vais sur PowerDMark, je mets le domaine du client, pas de DMark, pas de DKIM. Surprise, surprise, surprise. T'sais. Fait que, regarde, c'est ça. Là. Les mesures de base sont pas mises en place. Puis, au bout de 3-4 ans, faire des évaluations de posture de cybersécurité, quand je vois des petites choses simples comme ça qui sont pas faites, ça m'a main dans le feu qu'il y a plein d'autres affaires qui sont pas faites. Puis, effectivement, c'est le cas.
Ouais. Puis, le point, c'est qu'ils ne le savent pas. Ils n'ont pas les connaissances, ils n'ont pas le budget.
Puis là, mon client
m'a spin en rond là-dedans.
C'est ça. Mon client m'a introduit. Il dit, regarde, lui, là, il est bon, il va t'aider avec ça. Il dit, ah, c'est correct, on a contacté notre firme TI. Fait que là, on a ri, mon client, puis moi, sa firme TI, là,
Et ils ne savent pas, eux autres,
non plus.
Je pourrais en parler beaucoup des films télé aussi. Des expériences, là. Ouf.
Mais l'affaire, on en a déjà parlé là, peut-être l'année passée sur le podcast, mais il y a beaucoup, beaucoup de films télé qui mettent le mot sur leur front page « expert en sécurité » parce qu'il y a du budget à faire. Écoute, là, tu checkes la liste d'employés, il n'y en a aucun qui a déjà travaillé en sécurité. Là. Zéro, là.
Ça a fait partie de mon dernier talk au Hackfest en 2023. Là. J'ai parlé de ça, les films de service TI qui s'annoncent experts en cybersécurité, puis on va vous protéger. Puis tu regardes, eux autres, même, ils n'ont même pas des marques des IKIM configurés. Puis je fais des audits de leurs clients, puis c'est pathétique. Là. Fait que j'ai tellement le goût de, des fois, de les shamer publiquement. Là, vous dire, non, toi, là, arrête de dire que tu es expert en cybersécurité, t'es zéro open bar. Là. Ouais,
d'après moi, ce monde-là, ça mange la pizza aux ananas.
Ça doit, t'as raison, Tami. Ça doit garer de pizza aux ananas. Puis... Ouais, en tout cas, si tu veux, c'est la réalité du marché. Là.
Yep, tout à fait. Ben, merci, messieurs. Un épisode un peu plus court, mais très intéressant. Puis on va revenir sur le sujet, évidemment, là, sur l'influence du Hackfest et tout ça. Comme je dis, on travaille sur un petit projet relié à ça. Mais ce qui est le fun, tu sais, l'Hackfest existe principalement pour ce que tu as décrit, là, Danny, on fait ça pour ça. Pas juste, oui, pour le fun, mais tu sais, d'aider les autres puis d'avoir du succès à ce niveau-là, pour la relève et pour plus encore. Puis ce qui est le fun, tu sais, autant au niveau IAC, les Québec Sec de ce monde, là, où ce qu'on donne des présentations, n'importe qui, en fait, ici, là, peut présenter. Là. Si ça vous tente, vous avez le sujet, gênez-vous pas, écrivez-nous. Mais l'idée, c'est justement, c'est que n'importe qui peut avoir accès à ça. Oui, le Hackfest a un niveau pas de qualité, là, mais un requis plus élevé, mettons, mais Québec Sec, n'importe qui peut présenter sur n'importe quel sujet, presque. Puis on a vu du monde assister ou présenter qui était extrêmement soit stressé ou qui, tu sais, était au cégep, là. Il faisait un projet du cégep. Je dis, mais non, c'est correct, présente-le. Puis ce monde-là, il gère des entreprises, il lead des entreprises, ou c'est des développeurs de haut niveau, etc. Fait que non, c'est le fun à voir, puis ça continue comme ça. Puis pas besoin d'être le plus expert dans les trucs edgy que personne connaît. Ce que le monde oublie, c'est qu'on a tous commencé à quelque part, puis aujourd'hui, il y a encore du monde qui commence. Fait que oui, le 101, là, le talk de base, a encore d'affaires à faire au Hackfest. C'est pour ça qu'on a rajouté une track 101 au Hackfest, parce que des débutants, il y en a aujourd'hui, il y en a hier, puis il y en a demain. Là. C'est normal.
Puis, je lève mon chapeau, Danny, d'avoir pris la chance, puis d'avoir été inspiré, puis de le faire, puis t'étais nerveux, puis c'est ça. Mais écoute, d'être capable de présenter en personne là, mes deux derniers, mes présentations à Hackfest, c'est des 200, 220 personnes en pièce. Là. Fait partie d'un panel où a été sec en avant de 500, 600 personnes. Mais parler en public comme ça, c'est un skill incroyable là, qui t'aide dans toutes sortes de domaines dans ta vie aussi.
Oui, oui, oui. Ouais. Non, c'est une présentation à ton boss, t'as parlé devant 400 personnes, ça aide. Là. C'est niaiseux.
Ben, je suis ri, là, mais quand j'ai fait une évaluation cette année, ben l'année passée, ben comme au début de l'année, là, nous autres, on fait ça tout le temps, puis en janvier, je l'avais mentionné, ça, justement, j'ai donné puis une conférence, tout ça, puis il peut pas dire c'est pas vrai, j'ai mon twin ici. Puis justement, oui, ça l'aide après ça d'être capable d'être parlé, mettons, à la haute direction, tout ça, parce que ça, c'est un style aussi, il faut que tu apprennes. Moi, je travaille beaucoup sur ce style-là, parce que comme j'ai dit au début, c'est un de shop. Parce que mon langage, des fois, il peut être encore langage de shop. Puis la haute direction ne parle pas comme les jobs planchers. Non. Parce que tu changes ton langage. Je voulais cette année présenter aussi à Joe Setter, puis Joe 7, mais j'ai pas eu le courage de le faire parce que je trouve que j'ai passé l'appel business. C'est un environnement que tu connais moins, parce que pas aussi à l'aise, mettons, qu'au Hackfest.
Mais le truc, c'est que tu essayes puis tu te fais refuser.
Ouais.
Puis tu réessayes jusqu'à temps que tu te fasses accepter. Le nombre de tards qu'on se fait refuser.
Ouais.
C'est assez grand.
Et je vais le dire aussi, là, comme ça, là, s'il y en a qui nous écoutent, qui aimeraient ça, essayer ça, te présenter, mais sont pas certains comment s'y prendre, comment faire une présentation, conter une histoire. Je m'offre, là, contactez-moi sur LinkedIn, puis je vais vous coacher, je vais vous
faire
20, 25 ans, je vais faire des opérations, là, puis
Puis même sur Discord du Hackfest, il y a plein de monde qui vont faire la même chose que toi. Puis même au niveau des CV, des CV, on en revoit, on les analyse, on aide le monde. Il y a plein de monde qui ont trouvé des jobs par rapport à ça.
Good, c'est
ça. En train d'eux. Puis le Québec Sec, oui, c'est à Québec, là, mais si vous faites le voyage, puis on peut vous aider, là, évidemment, mais... Si vous n'avez jamais donné talks, c'est la meilleure place. Là. Mmh. C'est un événement mensuel, il y a 30 personnes, tu oublies que c'est en ligne, puis tout est correct. Non, mais il n'y a jamais tant de monde que ça. Mais c'est vraiment chill. Puis même le hack qui est passé il y a quelques semaines, c'est une trentaine de personnes aussi, puis c'est relax. Puis le but, c'est qu'il n'y a pas de jugement, parce que si quelqu'un juge puis chiale après toi, la seule réponse possible, c'est monte sur le stage puis sois meilleur live là. Sinon... Ouais. Sac ton cœur. Pour vrai, c'est ça. Right?
Ouais.
Puis, non. Puis tout le monde a quelque chose à dire et présenter.
Ben,
peu importe votre niveau, right? Tu sais, et Danny, on en a parlé souvent là, ensemble, mais j'ai pas l'expérience que toi, même si j'ai plus d'expérience que toi en sécurité, parce que ton expérience est différente de la mienne. Fait que t'as quelque chose à dire. That's it. Ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure ou qu'elle est moins bonne. La titre, elle s'applique à d'autres choses différentes. Fait que, ouais, osez. Puis, dans le pire des cas, là, vous recevez un email qui dit que ben, ça n'a pas marché cette fois-là. Puis, si vous suivez les Twitter, Mastodon, LinkedIn de ce monde, le monde qui applique à des grandes conférences, que ce soit Hackfest, DEFCON, Black Hat et autres, il y a plein de monde qui pose quand les deadlines finissent, là, qui ont été refusés juste pour dire « check ». J'ai déjà donné 50 talks, puis je suis encore refusé aujourd'hui. Ça arrive, là. C'est pas parce que ton talk est pas bon, c'est parce que soit l'autre est meilleur, ou il apprécie un sujet différent, puis entre les deux, ben, ils ont choisi l'autre. Des fois, c'est même pas une question de qualité, là. C'est parce que t'as un nombre de salles, puis t'as un nombre d'heures aussi. Là. Ben, ça me fait rire, puis c'est souvent une question qu'on a. Ils disent, ouais, mais là, l'événement est sold out, là, mais tu peux en rajouter. Et c'est pas une question d'en rajouter, là. C'est parce que la salle a des limites, puis le nombre d'heures aussi. Là. On peut pas inventer des salles pour mettre tout le monde. Mm-hmm. Fait que tu sais, il y a une limitation sur la quantité par défaut tout le temps, au niveau des présentations aussi. Là. Fait que c'est ça qui est le fun. Mais non, n'hésitez pas, faites comme Danny. On mettra ta vidéo dans la. De l'année passée, il est très cool ton talk, les graphiques puis tout sont super le fun en plus.
Ouais, ben c'est fou les commentaires que j'ai eus par après. Là. Moi, je peux te dire, hey, t'avais les plus belles slides de tout le Hackfest, puis t'as tabarouette, merci. À un moment donné, je marchais
dans la rue. T'étais dans le thème, là. T'étais 16
oh,
de
oui, ben, exact,
à fond.
À un moment donné, je marchais dans la rue, t'étais comme assez loin de l'hôtel. Là, il y a quelqu'un genre, qui m'arrête. Hey, c'était super bon. Comme, t'es toi, genre. Là, tu comprenais pas que c'était quelqu'un du Hackfest. T'es comme loin de l'hôtel. Là. T'es comme, t'es un jeune petit de Québec, genre. Mais non, c'était quelqu'un qui m'avait vu, mais.
Nice.
Il faut oser. Je pense que s'il y a un truc à retenir de tout, c'est dans la vie, il faut oser. Il n'y a rien qui arrive.
Il ouais, faut pas le prendre. Pour vrai, il ne faut pas le prendre personnel quand la réponse exact. Est non. Là. Puis, n'hésitez pas à poser des questions pourquoi que ça a été non. Des fois, c'est possible de le dire, des fois, c'est pas possible. Là. Il y a plein d'affaires de comités puis de détails là-dedans. Mais quand c'est possible, c'est super le fun. Là, on peut aider en ce sens-là.
Puis là, on va voir si mon code va être peut-être envoyé un autre cette année. On va voir s'il est accepté. Il ne veut pas mettre la pression. Mais
ce que j'expliquais juste avant que tu te joignes à nous avant le début du show, toutes les talks au Hackfest sont sélectionnées sans savoir qui les donne. Il n'y a pas de nom. C'est 100% contenu. Non. N'importe qui, tu peux ressembler à whatever, tu peux parler comme tu veux. Si ton contenu fait du sens, tu passes à l'étape suivante. That's it. La seule limitation qu'on fait, c'est évidemment quand quelqu'un habite dans un pays qu'on ne peut pas avoir de visa ou qu'on le sait que la personne n'est pas capable de présenter sur scène. Là. C'est rare, là. Ça arrive. Ben, des fois, on va se limiter, mais c'est moins de 1% des cas. Mais pour vrai, il n'y a personne qui sait qui analyse quel sujet. La seule exception, c'est des fois, ils vont dire leur propre nom dans le talk, là, mais là, rendu là, tu ne peux plus rien faire. Mais à part ça, non. Si ton sujet est bon, tu gagnes ou tu perds. That's it. Il n'y a pas de limitation là-dessus. Puis ce qui est assez incroyable, c'est avec ce format-là, on a un des plus grands taux de participation sur la diversité. Là, c'est 35% et plus de femmes, je pense.
Oui, ben l'année passée, il y en avait quand même beaucoup là, aussi. Oui,
oui. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai aucune idée quel talk t'as soumis. C'est ça que je voulais dire.
Ben, ça va pas mal dans l'idée de oser. Ouais. Là, je ne dirais pas c'est toi. Là, je ne veux pas gâcher le punch. Mmh. Mais dans le oser. Ouais.
Mais pour les talks du Hackfest, pour vrai, si vous voulez oser, vous avez encore 2 semaines pour la première ronde, puis jusqu'à la fin août pour la deuxième ronde. Fait que ça donne comme un mois et demi avant le Hackfest là, au total. Fait que mi-juillet, d'ici un mois finalement, on devrait avoir une couple de talks en ligne. Puis on a déjà notre keynote en ligne là, qui est Chris Roberts, le gars qui a piraté des avions dans le passé, qui est super reconnu. Fait qu'allez voir ça, c'est sur le front page. Ça risque d'être super le fun et intéressant. Il va être à Polar sur le panel et keynote au Hackfest. Ben, merci encore, mon Jacques et Danny. On se reparle d'ici 2 semaines.
Yes, yes sir. Ciao. The French Connection. Thank you.
Connection.